En ce 23 janvier, au martyrologe de l'Église catholique, il y a des saints du 7e siècle. Saint Jean l'Aumônier, patriarche d'Alexandrie en Égypte. Un patriarche d'une grande charité, c'est extraordinaire. Nous en parlerons peut-être une autre année. Et il y a aussi Saint Ildefonse, l'archevêque de Tolède, qui était un très grand dévot de Marie. Mais j'ai pensé parler aujourd'hui de Pierre Lyonnais, un jésuite qui m'a toujours bouleversé, qui est mort en 1949, tout jeune, à 43 ans, et qui était un très grand éducateur à Lyon, et particulièrement à Saint-Étienne, près de Lyon. C'est un grand spirituel français. Je retrouve à la page 129 de ses écrits spirituels ces quatre lignes magnifiques, simplement grande importance dans ma vie spirituelle, dit le père Lyonnais. Devenir bon à force de contempler mon père, par contagion, par fierté de lui ressembler, par intelligence de son cœur, désir ardent de l'écouter, de l'entendre, de l'aimer. C'est merveilleux d'entendre un jésuite être aussi amoureux de Dieu que ça. C'est plus splendide. Il était aussi un homme inquiet de l'unité des chrétiens. Et c'est la semaine de l'unité des chrétiens. Hein? Il disait, le chemin de l'unité entre nous, il est que, catholique, je me convertisse tous les jours à ma foi catholique, que je fasse effort tous les jours. Et c'est là ma conversion, pour me remettre face à mon Dieu dans l'attitude loyale que me demande ma foi. Le chemin de l'unité, c'est que je vive de ma foi catholique en plénitude et qu'eux aussi vivent loyalement leur foi de toute leur âme. Le chemin de l'unité, il se trouve être le chemin de la sainteté. Oh, mes frères séparés, qui nous empêche de marcher ensemble par ce chemin de sainteté? Encourageons-nous mutuellement, désirons notre perfection réciproque, soyons avides les uns et les autres de sainteté. La preuve de la vérité, c'est la sainteté, et la sainteté, c'est la plénitude de l'amour. Eh bien, vous verrez combien le père Pierre Lyonnais a vécu ça à fond. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. On disait de lui qu'il avait le plus joyeux visage. On disait que son sourire, qu'il avait merveilleux, il l'avait comme un enfant, vif, un sourire clair et même un peu taquin. Il était d'une extraordinaire paix aussi. C'était un sourire, paraît-il, qui donnait la paix, qui doucement, disent les témoins, vous éclairait jusqu'au fond, si doucement que, comme on se taisait toujours beaucoup avec lui, on était pris d'envie de reposer là longtemps dans le rayonnement de son regard. Et sans doute est-ce pour cette joie qu'il apportait que ceux qui l'ont bien connu, quand on leur demande leurs souvenirs les plus personnels sur le père Pierre Lyonnais, commencent presque toujours en disant « Ah, quand le père Lyonnais était là, on était heureux. » Avec lui, c'était le bonheur. Il était vraiment le plus joyeux, le plus affectueux, le plus abandonné des amis. Il était la révélation de l'amitié, l'amitié de Dieu. Il se donnait si entièrement et simplement que tout le monde a toujours cru qu'il était son meilleur ami. Ce qui était vrai. Parce que le père Lyonnais ne partageait pas. Parce qu'il ne gardait rien pour lui. Mais se donnait toujours à tous, jusqu'au bout, avec une grande spontanéité. Un père de famille qui disait, nous aimions le voir, quand il arrivait pompé, selon son expression familière, il faisait d'abord sa tournée des enfants qui venaient de se coucher. Il s'asseyait sur le bord du lit et notre petite fille s'inquiétait de son travail en classe, feuilletait avec elle son illustré, puis le père Lyonnais se mettait à genoux, près du berceau du dernier-né qu'il avait baptisé. Il restait ainsi de longues minutes à le regarder. Ah, il voulait en faire un saint de celui-là. Enfin, Il allait trouver notre fils et alors c'était la bagarre. Pour arrêter les ébats, nous disions au garçon « Allons, un peu de retenue, c'est ton père recteur du collège. » Et le père se retournait vers nous et avec un sourire malicieux disait « Oui, c'est le père recteur. » Et puis après. Et puis, il ne nous restait plus qu'à laisser faire. Comme nous aimions le revoir, assis à même le plancher, jouant avec eux à l'école, se faisant le plus chahuteur des élèves et s'amusant avec leur joie, il était enfant. Oui, c'était un enfant, et pas le moins turbulent avec les enfants. Mais c'était un saint. Oui, cet homme que l'on voyait presque toujours voûté à cause de ses maux d'estomac qui étaient épouvantables, ou bien assis, très penché en avant et pressant son estomac de ses bras croisés, et qui avouera sur son lit de mort n'avoir pas vécu une heure depuis 10 ans sans d'atroces souffrances, était ainsi capable, en fin de journée et à bout physiquement, de jouer à l'école ou à la poupée, de se donner tout entier à ses amis. Il est mort après 10 ans de sacerdoce à 43 ans. Il a souffert constamment pendant son sacerdoce. Il disait du paradis, « Enfin, on pourra aimer sans limite et sans trahison. » Oui, c'est ça le ciel. Je pense que la plus grande peine ici-bas est de ne pouvoir être fidèle à ses amis, d'être obligé toujours de renoncer aux 2/3 de ce qu'on voudrait faire pour Dieu. Il a toujours voulu faire davantage pour Dieu. Il arrivait à son heure à lui avec sa vieille soutane, qui avait passé partout et beaucoup essuyé de tout, avec des souliers aux semelles, plus d'un jour, implorante, et d'une ficelle, parfois, toute une ficelle qui remplaçait le lacet qu'il n'avait pas trouvé. Il était si fraternel et si joyeux, et souvent aussi méditant quelques farces, que c'était comme un nouveau Poverello, c'était François d'Assise qui entrait. Bien oui, le père lyonnais avait autrefois beaucoup aimé son violon et maintenant, jusqu'à ses derniers jours, il prenait grand plaisir à diriger l'initiation musicale des élèves et à leur enseigner le chant. Il savait bien que son allure, pleine de liberté et de fantaisie, mais toujours il inspira un immense respect, même à ses plus intimes, même aux heures du plus grand abandon, il n'a jamais cessé de répandre un peu de respect autour de lui. Et cette allure pouvait étonner même quelques-uns. Quand il sonnait, par exemple, à certaines sonnettes, tout éclaboussé de boue par la longue course en vélomoteur, il se promenait en vélomoteur, imaginez, couvert de boue. Mais il ne riait que mieux, s'excusant sans contrition, d'une façon tout à fait drôle. Et puis, ceux qu'il voyait, c'était presque toujours les pauvres, ceux qui n'avaient rien et qui ne tenaient à rien. C'étaient les pauvres, ses vrais amis. Tous ceux qui étaient pauvres étaient d'avance ses amis. Partout où il y avait des pauvres, il entrait et il était chez lui. C'est extraordinaire la place que tenaient les pauvres dans cette vie. Combien souvent il en parlait. Ainsi, tout le monde savait, quand il devait prêcher, qu'il parlerait des pauvres, et c'est d'eux encore qu'il parlera le plus à ses derniers jours à l'hôpital. Et la dernière nuit d'avant sa mort, le 23 janvier 1949, près de Lyon, à Saint-Étienne, agité, tout en sueur, absolument rendu, il se retournera brusquement vers ceux qui étaient là. Et il disait, très jésuite, « Allez, 5 minutes de récréation. Pendant 5 minutes, on va parler des pauvres. » Il y avait dans sa sainteté beaucoup d'originalité. Il n'y avait que ça pour le reposer, parler des pauvres, ou être avec les pauvres, avec tous ceux qui étaient dans la détresse, parce qu'ils n'avaient pas à manger, ces gens, ou à se chauffer, parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils étaient seuls, parce qu'ils étaient désespérés. Ça me rappelle le père Maurice Lamarche, jésuite au collège Brébeuf. Pour de tels amis, il faisait des folies. Il lui arrivait d'aller voir un grand malade jusqu'à 2 ou 3 fois dans la journée. Les derniers temps, c'était en décembre, un mois avant sa mort. Déjà, il n'en pouvait plus. Et il est parti plusieurs fois le soir à vélomoteur veiller un garçon, un étranger, que le désespoir avait acculé au suicide. Il passait une partie de la nuit près de lui à causer, à encourager, à prier. Puis il revenait très tard. Il disait sa messe et recommençait sa journée. Il disait des choses absolument bouleversantes, comme « Oh, si nous étions des prêtres capables de courir au secours des autres jusqu'à nous ensanglanter !» Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Chacun pourrait dire ici, « Il vient chez nous, c'était un soir où ça n'allait pas. » Une autre fois, il vint aussi. Il venait et il restait longtemps parce qu'il sentait que sa présence consolait et rendait la paix. Il vivait cette parole de Jésus, « Reste avec nous, Seigneur, parce que la nuit tombe. » Et puis il s'en allait. Il avait toujours prié un moment. Et il disait, en partant, « Allez, je vous aime bien. » Ou bien il disait quelque chose qu'on entend bien rarement, « Jésus-Christ vous aime bien. » Et on savait qu'il aurait encore le dernier sourire. Quand déjà il était parti, il se retourna un peu. Oh, il était si facile d'être son ami. Il suffisait de n'avoir pas le cœur fermé. Mais à la dureté de cœur, il était impitoyable. À ce qui était dur, sec, sclérosé et fermé. Oh, il était impitoyable. Il faisait alors de grandes colères. Oui, c'était un saint comme Jésus qui faisait des colères. L'amour, parfois, criait terriblement fort chez lui. Oh, il faut l'avoir entendu tonner, le mot n'est pas trop fort, contre l'injustice, contre l'égoïsme et contre l'argent. Ceux qui ne conçoivent la charité qu'avec des formes ou des prudences ou des ménagements étaient scandalisés. Ceux qui ne savent pas que l'amour aussi, c'est parfois la colère. On entendait alors passer le « malheur à vous » indéfiniment répété du sermon sur la montagne, le « malheur à vous » riche de Jésus. Il en voulait effroyablement à l'argent. Il disait, « Je vous en supplie, n'aimez jamais l'argent. » En fait, à travers les cadavres de ceux que leur égoïsme a tués, ces gens vont à l'indigence, disait-il, et à la solitude, et ils meurent seuls. Parce que pour eux, il n'y a plus d'amour à donner, plus d'amour à recevoir. Il disait encore, l'argent fait croire qu'aimer, c'est s'amuser. Pauvre amour que l'amour du riche. Triste amour que l'amour de ceux qui ne peuvent rester ensemble que si l'argent est avec eux. L'argent qui peu à peu fausse toutes les valeurs, défigure et souille des visages autrefois clairs et purs. L'argent détruit toute la jeunesse de l'élan. L'argent qui n'a pas accès au berceau de l'amour. Il ajoutait, le monde se meurt faute d'amour. Il faut mépriser l'argent. Il dit quelques heures avant de mourir, tant cette angoisse le poursuivait de l'argent toujours injuste quand il est gardé, parce qu'il est une insulte à la misère, parce qu'il rend toute fraternité impossible par les différences qu'il met entre les hommes, eh bien il disait, juste avant de mourir, il y a deux obstacles au rapprochement des classes, l'argent et la dureté de cœur. Et j'en meurs, j'en meurs, j'en meurs. Oui, j'en meurs. Véritablement, il en mourait. Il mourait de l'épuisement d'avoir tant couru malgré son mal, tant tiré de sonnettes à la recherche d'argent pour ceux qui étaient sans argent. Oui, son visage définitif, c'est alors qu'il le trouva, son visage d'indigent, d'errant et d'affamé. Vraiment, ce fut alors qu'il accomplit sa vocation de petit pauvre de l'amour de Jésus-Christ et de ses frères, et c'est bien ainsi qu'il devait tomber comme il tomba le soir du mercredi 19 janvier, après avoir sonné une dernière sonnette, dans le geste du mendiant. Bien oui, il est mort en se dévouant tellement pour les pauvres qu'il en est mort, quoi. On les raisonnables diront qu'il aurait dû se ménager. On dira que lorsqu'on a si peu de forces et qu'elles sont si précieuses, il faut savoir en disposer sagement. Mais les saints ne sont pas de cet avis. Parce que les raisonnables ont peut-être raison, mais l'amour chez les saints comme chez le père Pierre Lyonnais, c'est trop véhément. Il lui était impossible au père Lyonnais de s'arrêter, de se reposer. La faim de Dieu le pressait trop. Il avait été envoyé au collège Saint-Michel de Saint-Étienne comme recteur pour y continuer sa convalescence au début, tout en faisant un peu de ministère auprès des élèves. petit peu de ministère. Les premières années, après sa messe, il se recouchait jusque vers 10 heures et à nouveau, après le déjeuner de midi, s'étendait jusqu'à 3 heures. Il était très faible. Le soir, il se mettait au lit, le repas fini. Plus tard, il ne prendrait que très peu de ménagement. Il n'en pouvait plus de prendre des ménagements. Il voulait se consacrer à Dieu, auprès des élèves et auprès des pauvres. Mais à cette époque même, où il consentait à se soigner, jamais il ne donna l'impression de se reposer, et continuellement, il était repris. Il était repris par son appel intérieur, par cette angoisse du royaume de Jésus-Christ, le royaume. Oui, lui, qu'environnait tant de calme et de douce paix, qui jamais ne paraissait inquiet ou nerveux, jamais non plus on ne le voyait au repos, hein. Il avait une imagination apostolique débordante, était prodigieux. Il travaillait sans cesse, il inventait, il avait l'imagination de celui qui aime, l'imagination de sa passion pour Jésus-Christ. Un vrai jésuite comme ceux du tout début. Quand on lit la fondation des jésuites, particulièrement dans le livre de Jean Lacouture, si vous voulez, ses ouvrages très intéressants sur les jésuites, c'est passionnant. Passionnant. Il fallait entreprendre une vraie croisade en faveur des pauvres gens. On était en 42-43, en pleine guerre. Il fallait leur porter du bois, des vêtements, des tickets de pain. Il fallait organiser des équipes de garçons pour visiter et distraire le jeudi les enfants de l'hôpital. Il fallait que de jeunes ménages chrétiens acceptent d'être des foyers témoins de l'Évangile, qu'ils s'installent au milieu des pauvres, qui vivent de leur pauvreté, pour le seul amour des frères de Jésus-Christ. Il allait jusque-là, hein? Il fallait soutenir dans leur effort aussi les militants chrétiens ouvriers pour que ces hommes organisent des institutions, comme il disait, des institutions terrestres. Non, point pour bien installer leurs frères ici-bas, mais pour les mettre dans des dispositions de fraternité telles qu'ils puissent découvrir, par l'esprit fraternel, ils découvrirent l'esprit filial et le Dieu d'amour. Il fallait créer à Saint-Étienne une maison où les jeunes de tous les milieux indistinctement puissent se rencontrer aussi, se connaître, échanger. Une sorte de maison de la culture, où ceux qui ont davantage reçu se mettent au service de leurs frères. Il fallait un groupe de théâtre et de chant, où jeunes gens et jeunes filles vivent sainement ensemble, révélant à toute la jeunesse autour d'eux cette pureté, cette joie de Jésus-Christ auquel le monde ne croit pas. Ça existe à Montréal, ça. Il fallait lancer aussi dans la ville le mouvement des cadets de la jeunesse étudiante catholique, la JEC, qui préparerait les militants étudiants de demain. Il fallait aussi, tout ce qu'il faisait, c'était fantastique, hein, il fallait que les camps de vacances rassemblent le plus de garçons possible de tous les établissements de la ville, avec un bon noyau là, d'action catholique pour les animer. Il veillait aussi à mettre fin par là aux séparations, au sectarisme. Il voulait christianiser le monde des écoles. Il fallait que les collèges, qui trop habituellement s'ignorent et vivent repliés sur eux-mêmes, mais consentent enfin à s'unir et à s'entraider. Il fallait que Saint-Étienne ait aussi ses causeries religieuses suivies pour adultes, où tous les hommes de bonne volonté soient invités, comme ça existe un peu à Montréal, au Centre Christus. Il fallait prendre l'initiative, hein? C'est une de ses grandes passions, initiative de conversation fréquente avec les chrétiens de l'Église réformée, protestante. Cela avec une grande droiture, hein, et sans nul esprit de confusion, ni de concession. Il faisait pas de concession, ni d'une part ni de l'autre. Il demandait pas aux protestants de faire des concessions, il demandait l'amour. Les magnifiques pages publiées sur l'unité en témoignent, je vous en ai lu un petit extrait sur la sainteté tout à l'heure. Parce que comme il le dira sur son lit de mort à un médecin protestant, son ami, en l'embrassant, « Nous avons le même Seigneur. » Il fallait toujours qu'il fasse quelque chose. Il fallait sortir de tous les ghettos, forcer toutes les routines, faire sauter les barrières. Il voulait arrêter l'égoïsme, le péché, la lâcheté, la paresse. Tout ce qui s'oppose à la fraternité des hommes et au rayonnement de l'amour du Christ. Il aimait le petit chant Saint-François d'Assise qu'on chantera à sa messe de funérailles. Fût-on brûlé d'amour à en mourir, on n'aime pas encore assez. On n'aime jamais assez. L'amour est tout qui est Dieu même. Ses collaborateurs, ses amis, qui lui arrivaient de réveiller puis de secouer vigoureusement puis dont il exigeait beaucoup, étaient bien parfois un peu essoufflés et on disait que c'était épuisant de travailler avec lui. Puis pourtant il était malade, il avait des maux d'estomac épouvantables. Il forçait le rythme, mais c'était un rythme joyeux. On lui reprochait de ne pas assez stabiliser ce qu'il organisait, de pas assez organiser non plus, de trop continuellement inventer, lancer. On ne finissait pas ce qu'il avait entrepris, il voyait toujours autre chose à faire, mais il répliquait vivement, « Il ne faut pas vouloir trop bien faire. Si l'on attend que tout soit prêt, on ne fera jamais rien. » Que c'est donc vrai, ça. Il savait qu'il fallait semer, qu'il était simplement semeur, et que la grâce de Dieu mûrirait le grain jeté en terre, à large geste. Là. Il fallait semer, semer. Et puis, il savait aussi qu'il devait bientôt partir, il allait mourir, et que malgré ses 43 ans, il n'avait plus longtemps demeuré parmi nous. Hein. Il disait, « Je suis un vieux. Ah oui, je suis un type fini. » Et il souriait. Et parfois, soudain, plus angoissé devant tout ce qu'il y avait encore à faire, il disait, « Oh, je n'y arriverai bien jamais. » Et c'était dit douloureusement, mais sans amertume, dans la conviction que le véritable apostolat des saints a lieu après leur mort. C'était même dit avec ardeur et désir. Il disait, « Je suis pressé de mourir pour donner du fruit. » En attendant, l'amour déjà l'emportait sur de nouvelles pistes infatigablement. Et si on le priait de se reposer, bien, il répondait à peu près comme il l'a fait le matin de sa mort, quand, dans son délire, il tentait désespérément de se lever, il disait, « Allez, aidez-moi à me lever, partons d'ici. » Il délirait. Toujours il fallait qu'il fasse quelque chose pour le Christ Jésus qu'il aimait, d'un amour passionné. On tentait de l'apaiser, évidemment, puis on le suppliait d'attendre un peu. Il disait, « La chrétienté n'a pas le temps d'attendre. » Il était dévoré. Et parmi toutes ses préoccupations, celle particulièrement de son collège, dont il était le recteur, l'obsédait. Lui, si extraordinairement taillé pour l'action par sa faculté d'invention, puis son audace à réaliser toutes sortes de choses, et par son pouvoir étonnant de regrouper les hommes, hein, et de les jeter dans la mêlée, on pourrait d'abord s'étonner qu'il désire consacrer sa vie à un collège, mais depuis quelques années, une idée s'imposait de plus en plus à son esprit. Il voulait réaliser une école de cadre de chrétienté, faire d'un collège un centre de formation de militants, c'est-à-dire de passionnés du royaume, de serviteurs passionnés de leurs frères, de jeunes garçons qui mettent toute leur énergie et toute la formation reçue à rendre l'humanité plus fraternelle et plus chrétienne. Il disait former dans les collèges de grands chrétiens, ambitieux d'être les premiers citoyens pour le service fraternel. Il écrit dans ses cahiers. Et pour ce projet, on n'avait que faire de beaux esprits puis d'esprits distingués et des purs humanistes, d'érudits et de gens qui vont se diriger vers les hautes études commerciales. On n'avait que faire d'une aristocratie de la culture qui vient accroître encore la petite caste des privilégiés spécialistes de littérature pour la littérature, d'art pour l'art. Non, il n'y avait aucun intérêt apostolique à favoriser le succès dans le monde des affaires d'un petit nombre d'arrivistes et d'ambitieux. Il fallait former dans les collèges les hommes dont avait besoin l'humanité d'aujourd'hui. Il fallait régler l'éducation sur les nécessités du monde moderne, repenser en conséquence, repenser les méthodes d'éducation et d'enseignement en fonction du travail de christianisation. Il était hanté par ça, et le succès d'un garçon importait dans l'exacte mesure où il le rendait plus disponible au Christ, et donc plus livré à ses frères, et donc plus efficace pour l'œuvre du royaume. C'était là, pour le père Lionel, le seul critère de réussite. Oui, c'était là le seul critère de réussite. À tout à l'heure. Le père Lyonnais disait, nous ne serons jamais fiers, selon le Christ, d'un bachelier diplômé s'il n'a pas le cœur pauvre. et l'âme loyale et pure. Nous n'avons que faire de techniciens sans âme et sans conscience, de spécialistes intéressés. Ceux-là ne pourront jamais construire autre chose qu'un monde dur, un monde d'argent et d'esclaves, de jouissance et d'administration sans âme, un monde où jamais ne fleurira la charité au souffle de l'Esprit de Dieu. Le père Lyonnais disait aussi, « Nous pensons même que le travail, aussi acharné qu'il soit, s'il n'est animé que par la poursuite orgueilleuse d'une ambition personnelle, s'il n'a d'autre mobile que la volonté égoïste d'arriver, n'est encore que stérile. Nous avons l'ambition de faire de nos enfants des hommes au service des autres. Pour qui la vie n'a pas d'autre sens, pas d'autre bonheur, que de rendre les autres meilleurs, plus heureux. Nous voulons qu'ils choisissent leur carrière pour cela. C'est avec cette obsession des autres que nous voulons lancer nos garçons dans la vie, avec cette grande angoisse de la douleur du monde. Il faut que jamais ils ne s'y habituent, qu'ils n'en prennent jamais leur parti, mais qu'ils soient tourmentés d'y porter remède. Alors, nous serons fiers d'eux, s'ils sont des hommes de la charité du Christ. Que c'est beau une vocation de jésuite! Que c'est beau une vocation d'éducateur chrétien! Que c'est beau l'Évangile! Que c'est beau l'Église! Son collège, à Saint-Étienne, en France, près de Lyon, est ouvert à tous. Pour qui naissent et déjà s'y exerce la vie de communauté des hommes de demain. Ce collège doit devenir pour lui un centre d'apprentissage fraternel, une école de rassemblement de tous les garçons, sans distinction, de, comme il disait, de juifs, de gentils, de riches ou de pauvres, pour qu'apprennent à s'y connaître, estimer et aimer tous ces garçons, qui construiront ensemble plus tard la cité selon le Christ. La cité, image et commencement de la cité de Dieu. La présence de tous est donc nécessaire. À cet âge du collège, la chose est possible car l'homme n'a pas encore ses positions prises, hein, n'est pas encore mûri, durci, parce que les dures oppositions ne se sont pas établies. Il faut donc en profiter là, pour mêler les uns aux autres, unifier les garçons dans une même conception chrétienne de l'existence, ceux qui sont appelés à travailler demain ensemble aux différents niveaux de la vie sociale. Et aujourd'hui, dans nos collèges, il faut le faire aussi avec les jeunes filles. Nous avons mélangé les garçons et les filles, et je ne suis pas sûr si c'est sage et bon. L'amour naît très tôt et la sexualité souvent. Et c'est souvent bien malsain. C'est dans la vue de ce but que le père Lyonnais passe tant de jours à quêter, non point du tout par désir de faire la charité, mais par souci de cette présence de tous, et pour qu'on ne parle plus de fraternité entre les hommes quand injustement on commence par isoler les uns des autres les enfants. C'est un cœur passionné, un cœur assoiffé, un cœur angoissé. On peut dire que le mystère de la sainte agonie du Christ le hantait. La pensée de tant d'hommes qui se perdent, de tant d'hommes qui ne s'aiment pas, qui n'aiment pas, ni qui ne connaissent pas le nom de Jésus-Christ. Et là est le secret dernier de son action, et pour ainsi dire la clé de sa vie. Cette angoisse, cette agonie de Jésus au jardin de Gethsémani, cette agonie perpétuelle de Jésus, peut-on dire, dont la maladie était comme le sacrement en son corps, c'est ce tourment qui l'apparente si étrangement à cet autre jésuite extraordinaire, saint François-Xavier. Il lui faisait chèrement aimer cette petite équipe là, autour d'Ignace de Loyola, qui a commencé la compagnie de Jésus, chez lui comme chez eux. C'est le même tourment puis la même paix, le même besoin impérieux de donner jusqu'à l'extrême limite de ses forces et de demeurer interminablement prière devant le Saint-Sacrement, demeurer interminablement prière devant le Saint-Sacrement. Oh, la distinction de l'homme d'action et du contemplatif est bien vaine, bien abstraite, quand on a connu, dit-on, le père Lyonnais. Il est bien impossible de ranger ce prêtre dans l'une ou l'autre catégorie, tant il réalisait à la perfection la consigne de sa vie de jésuite. Contemplatif dans l'action. Oui, contemplatif dans l'action, comme Saint François Xavier, comme l'étaient ces martyrs canadiens dont il aimait tant l'épopée, comme tel ou tel de ses frères jésuites, ses compagnons depuis son entrée au noviciat et dont il citait si volontiers les noms. Car c'est une chose extraordinaire, combien cette figure du Père Lyonnais, si peu commune, offrait de parenté et de ressemblance avec plusieurs saints visages de frères d'autrefois, ou ses contemporains même. Combien cette figure, en un sens, apparaît très classique chez les jésuites et chez tant d'autres religieux de la Sainte Église catholique. On s'en convaincra à la lecture de ses écrits. On s'y trouvera là-dedans, unis au plus simple et au plus traditionnel amour de l'Église. Un amour aussi de la Sainte Vierge de Notre-Dame qui était l'amour d'un enfant. Il estime la plus délicate aussi pour l'obéissance. Tout est, pour ainsi dire, déjà donné de ce qu'il apporte dans ses écrits. Tous ces thèmes, il faut les entendre de sa bouche, de sa lit, de sa plume. C'est à travers un si merveilleux instrument que son âme nous les communique. On les croirait nés aujourd'hui même. C'est tout neuf, c'est toujours tout neuf quand on lit le Père Pierre Lyonnais. C'était le frère de François Xavier et de tant de pionniers d'impatients jésuites à sa suite. C'est une des grandes vertus des jésuites que d'être impatient. Impatient à la recherche des âmes et de la sanctification des jeunes gens. Impatient à l'étude, impatient à connaître, impatient à enseigner. Et c'était cette même attente qui étreignait le cœur du Père Lyonnais parmi l'épuisement de ses courses. L'attente du visage de Jésus-Christ. Quand il rentrait le soir harassé, comme il parlait bien du royaume de Jésus, il disait « J'ai envie de paradis. Tu ne sais pas combien j'ai envie de paradis. » Un jour, il a fait quelque chose de très étrange. Il a arrêté assez brusquement un enfant sur la cour du collège, puis a planté ses yeux dans ses yeux, puis lui a dit « Tu n'as pas envie d'aller voir le Seigneur Jésus, toi ?» Et comme le garçon paraissait hésiter, il dit « Eh bien, moi, j'ai bien hâte. » Il a vu le visage, il le voit maintenant, le visage de Père Pierre Lyonnais. Oui, il est au ciel. Il l'avait bien assez entendu. À la fin, il n'en pouvait plus d'attendre. Celui dont, à tort et à travers, il prononçait le nom, il était bien temps pour lui de le rejoindre. Le Père Lyonnais était âgé de 43 ans quand le Seigneur l'a rappelé à lui le dimanche de l'unité, le 23 janvier 1949. Son ministère sacerdotal avait duré un petit peu plus de 9 années, même pas 10 ans. Il était ordonné prêtre à Lyon, sa ville natale. Le jour de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin 1937, il était déjà à cette époque un grand malade, je vous l'ai dit, hein. Sa première opération à l'estomac date en effet de décembre 1936. Puis à la semaine sainte de 37, il y a eu une première hémorragie intestinale qui a failli l'emporter. L'ordination était 2 mois plus tard, alors il ne se lèvera que pour recevoir l'ordination. C'est fantastique. Ma retraite d'ordination, dira-t-il, m'a laissé un souvenir calciné. Écrasement physique et moral. Je ne sais comment j'ai réussi à marcher. Alors, il passe ses premières années de sacerdoce dans son lit ou sur une chaise longue. Il vit entre la clinique, le Scolastica de Fourvière à Lyon, où il y a une radio, Notre-Dame de Fourvière, une radio un peu comme la nôtre. Puis, une maison de repos aussi, voilà. Il va d'une maison à une autre maison. Il est un convalescent qui n'arrive pas à se remettre de 3 interventions chirurgicales successives. On pourrait dire que c'est le patron des malades. Il avouera un jour à un ami que pendant toute sa première année de sacerdoce, il n'avait donné qu'une seule absolution. Ceux qui l'ont visité alors dans sa chambre de malade sont unanimes à dire qu'il les accueillait toujours avec son sourire très simple, intéressé par tout ce qu'il disait de cette activité apostolique dont le Seigneur lui avait demandé à lui l'entier sacrifice. Il ne pouvait pas être apôtre actif.
Il était contemplatif par la force. Sa santé était en effet si délabrée qu'il n'envisageait même plus de jamais se relever. Et ce long contact avec la douleur physique et cette convalescence qui n'en finit pas ont été vraiment le premier événement extraordinaire de sa vie, le seul qui le distinguait de ses compagnons. On peut trouver ça dans ses écrits spirituels, aussi dans les prières pour le temps de la maladie. Et jusque-là, il avait parcouru sans incident les étapes de formation de jésuite, son année de philosophie achevée au Collège de la Trinité à Lyon, mais le père Pierre Lyonnais était entré au noviciat de la Compagnie de Jésus en novembre 1923. Il n'avait que 17 ans et demi, ce jeune garçon. Et 2 ans de noviciat, 2 ans de juvénat, au cours desquels il prépare sa licence ès lettres, 3 ans de philosophie au scolastica près du Puy. Et puis, c'était un chemin bien connu, ça, pour les jésuites de France. Et en 1930, ses supérieurs l'avaient envoyé au Liban, à Beyrouth, au collège de Beyrouth. Il a enseigné successivement la troisième, puis les humanités. Puis en 1932, il est surveillant, tout simplement, à Montgré, en France. Puis en 1934, il quitte Montgré pour commencer enfin ses études de théologie à Fourvière. Et c'est là que son mal, dont les symptômes étaient déjà anciens, devait le terrasser. Il faudra la mobilisation de 1939 pour l'arracher à l'inactivité totale. Puis, le père Lyonnais, qui se tient à peu près maintenant sur ses deux jambes, là, accepte la proposition de ses supérieurs d'assurer au mieux de ses forces et tout en se soignant la charge de père spirituel des grands et moyens élèves au Collège Saint-Michel de Saint-Étienne, dont il va devenir le recteur. Mais ainsi commence-t-il en octobre 1939 son ministère dans cette ville qui va devenir sa ville. Il dit « J'aime la ville de Saint-Étienne, je l'aime beaucoup, viscéralement, avec tous ses défauts comme ça, c'est une ville minière. » Il ne quittera Saint-Étienne que pendant les 10 mois, de septembre 1945 à juillet 1946, où il fera à Paray-le-Monial sa 3e année de noviciat, le 3e an, où il a écrit de très belles choses. Et au mois d'août 1946, il y revient, et cette fois comme père recteur du collège, puis il meurt. Il meurt un peu plus de 2 ans après, le 23 janvier 1949. Il était animé d'un authentique amour de Dieu et des autres. Les prières pour le temps de la maladie sont magnifiques. Sa manière d'être aussi, sa manière de faire avec les adolescents. Toujours pour lui, il s'agit de leur rendre sensible, quoi, le mystère de Dieu. C'est ça qu'il veut transmettre aux adolescents, le mystère de Dieu. Leur donner le goût de la prière, de l'humilité évangélique. Il veut les éveiller, les jeunes, lentement, à la joie de se donner aux autres. Il veut les former aussi à l'esprit de l'action catholique du temps. Et les conseils qu'il donne dans ses lettres, les remarques qu'il fait dans ses causeries aux éducateurs, puis dans des retraites aussi, ça vient manifestement d'un prêtre. Oui, d'un prêtre qui vit intensément de Jésus-Christ et qui brûle de le communiquer. Son amour passionné de Jésus-Christ crucifié, qui avait été le secret de son ministère sacerdotal auprès des jeunes, prend de plus en plus toute la vie du père Pierre Lyonnais. Le souci de l'orientation authentiquement chrétienne de son collège dont il a la charge, ça l'anime profondément. Ça dépasse, comme je vous ai montré tout à l'heure, le cadre du collège. C'est ce souci également de révéler aux fiancés, aux jeunes foyers, aux mères de famille, à tous, riches et pauvres, justement les richesses de l'amour selon le Jésus-Christ. Voici comment est mort le père Pierre Lyonnais. Le 21 janvier, un vendredi matin, l'avant-veille de sa mort, les sœurs, les médecins sont très inquiets. Il dit, « Ma sœur, c'est effrayant ce que je souffre. Je souffre comme une bête. Il n'y a plus de place pour la prière. » À plusieurs reprises, il baise son crucifix. Il prie. « In manus tuas, Domine, entre tes mains, Seigneur. » Il dort quelques minutes, puis soudain, il se redresse sur son lit, le crucifix dans les mains, et son regard est doux et sérieux à la fois, et il dit d'une voix forte, « Mes enfants, je les ai tous confiés au Christ pour qu'il les garde. » Dans la soirée, une transfusion de sang doit être limitée à 380 grammes, et à celui qui va lui donner son sang, avec un sourire reconnaissant, il dit « Je suis heureux de penser que j'aurai du sang de brave dans les veines. Je vous remercie de bien vouloir me donner votre sang. C'est beau de donner son sang à des malades. Je ne vous oublierai jamais. Ah, si le sang du Christ pouvait ainsi circuler dans les veines des chrétiens !» Cette nuit, du vendredi au samedi, ne lui laisse aucun repos. Il semble souffrir beaucoup. Il plaisante, il dit « Je déraille. Allons, je vais essayer d'être sage. » Et les moments de délire alternent sans cesse avec les moments de lucidité. Il dit, avec un accent particulièrement pénétrant, « Il y a deux obstacles au rapprochement des classes, l'argent et la dureté de cœur. Et j'en meurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. » J'en meurs. Tendant sa main ouverte au Père qui le veille, il dit, « Allez, mettez de la prière là-dedans. » Comme si Jésus était... « Allez, mettez de la prière là-dedans. » Il se plaint alors de ne pas pouvoir prier. Le samedi matin, la veille de sa mort, il demande quand il pourra dire sa messe et communier. Peu après, il réalise sa faiblesse et dit, « Je ne m'en tirerai pas. Oh, si j'avais davantage dormi, je pourrais te tenir. » Il reprend ses projets d'action. Et il dit ce qu'il disait toujours, « Faut pas s'installer comme un bourgeois dans la vie. Vivre, c'est lutter et agir. » Et il ajoute, « Qu'est-ce qu'on va faire ? On y va ! J'ai confiance en Dieu !» Et avec véhémence, il s'écrie, « Mais offrez donc vos vies. Qu'attendez-vous pour offrir votre vie avec le prêtre, pour sauver les âmes qui se perdent ?» Dans la soirée, il chantait sans cesse « Salve Regina » et « In manus tuas ». Au cours de la nuit, souvent il fredonne et pendant près d'un quart d'heure, il répète avec une netteté et une force impressionnante les prières de la messe. Suscipe sancte pater. Et à plusieurs reprises, l'offrande du calice. Offerimus tibi calicem salutaris. Pro nostra tutius mundi salute. Nous vous offrons le calice du salut. Puis il récite le Je confesse à Dieu, et à plusieurs reprises, le psaume, « Venite exultemus domine, venez, exultons dans le Seigneur, venez, adorons. » Il embrasse son frère avec tendresse, et quand celui-ci lui dit, « Allons, mon petit Pierre, reste tranquille, » il répond en plaisantant, « Prends pas ton air d'extrême onction. » Et vers minuit, il cesse de s'agiter, il respire doucement, mais son pouls est très faible, ses mains sont glacées, il reste... Le reste de la nuit, dans un état de dépression qui inquiète beaucoup, et le dimanche matin, le jour de sa mort, le père lyonnais passe par des alternatives d'angoisse et de calme. Il réclame la visite d'un de ses amis de l'Église réformée, de l'Église protestante, et à son arrivée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il lui prend les bras, il l'embrasse. Au tout début de sa maladie, il l'avait déjà reçu en lui disant ces simples paroles, « Nous avons le même Seigneur ». Et les dernières heures sont atroces. Le père s'agite sans répit, il semble lutter, se débattre contre une force invisible. Son regard, par moments, exprime un sentiment d'angoisse et de terreur. Cependant, des phrases de paix s'échappent de ses lèvres. Il déclare le banquet. Oh, le banquet. On fera un grand banquet, et on s'assoira, et on causera. Oh, on y sera tous. Vers 1 heure du soir... Il dit, « Ne faut pas toujours chercher à trop bien faire. » Il le disait toujours. « Si l'on attend que tout soit prêt, on ne fera jamais rien. » Après une pause, il dit, « Enfin, enfin, on va pouvoir s'occuper de Jésus-Christ. » Et pendant près d'une heure encore, il va respirer péniblement. Le père préfet du collège lui présente le crucifix. J'avais fait comme ça avec maman, lui présentait la Sainte Face. En disant la même chose, « C'est lui qui vient vers vous en ami, Jésus-Christ. » Et le Père répète simplement, « Jésus-Christ. » Et ce sont ses derniers mots. Après un moment encore d'agonie, pendant lequel il fixe longuement des yeux et le crucifie, il rend l'esprit à 15h20, le 23 janvier 1949, à 43 ans, le dimanche de l'unité des chrétiens. Il avait un amour de l'Église passionné. Il disait, « Nous sommes de cette Église que le Christ a voulu parfaite, sainte, tout entière souple aux inspirations de son esprit. Elle est notre mère. C'est elle qui nous a fait chrétiens. C'est par elle et en elle que nous allons au Christ, que nous vivons et vivrons encore plus de la vie du Christ. Si nous nous désolidarisons d'elle dans un jugement que nous portons sur elle, alors il y a bien des chances que dans notre cœur, un esprit pharisaïque à rebours se soit introduit, et comme un reniement. Non qu'il ne faille pas voir ce qui manque, au contraire, mais pour y remédier, dans un effort personnel, pour travailler à être plus authentiquement chrétien, à témoigner plus profondément des valeurs spirituelles dont le Christ l'a rendu dépositaire, donc vie plus sainte, plus purement imprégnée de l'Évangile. Si l'Église est lente et lourde, c'est de toute l'impotence des pauvres membres que nous sommes. Il faut la libérer en témoignant là où nous sommes, à notre place. Il avait un tel désir d'unité que pour lui, seule la vérité dans l'amour auprès des protestants et des orthodoxes pouvait changer les choses.